Eh bien, bon matin à tous. On va pouvoir étudier un thème dans la parole de Dieu ce matin. J'aimerais prier pour commencer. Notre Dieu, oh combien c'est précieux de pouvoir lire, étudier, méditer ta parole ce matin. Gloire à toi. Toute la gloire revient à toi. Pour le beau message qu'elle contient, pour cette vérité dans nos vies, pour ce repère dans ce monde difficile, nous avons ta parole et bénis-la encore ce matin, par ton esprit, travaille dans nos cœurs. On te le demande au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Vous savez, justement, des repères, on en a besoin. On dit. Une dernière étude récemment sur la génération Z disait que les jeunes ont besoin de retrouver des repères. C'est comme si tout avait été démonté et là, ils cherchaient quelque chose. Et même quelque chose, non seulement pour les, comme on dit en anglais, pour les grounder, mais quelque chose qui est de plus grand qu'eux, en fait. Une vraie raison de vivre. Combien nous savons. En tant que croyant, que cela se trouve dans la parole de Dieu. Alors, imaginez un instant que vous êtes dans un foyer où les parents sont méchants, les parents sont critiques à votre égard. Vous vivez quelque chose d'inconfortable dans votre foyer et un jour, vous montez au grenier pour vous réfugier et vous trouvez un vieux coffre poussiéreux qui est là dans le grenier. Vous l'ouvrez. Et vous y trouvez des documents qui révèlent qu'en fait, vos parents ne sont pas vraiment vos parents. Vous avez été kidnappé à la naissance et vous avez vécu dans ce foyer-là. Vous découvrez qu'en réalité, votre mère est peintre à la Sorbonne et votre père a gagné des prix Nobel. Et là, qu'ils sont super bien et que vous êtes absent de toute cette réalité. Et là, c'est comme si vous revenez en arrière et vous revisitez toute votre vie à la lumière de cette nouvelle information qui change tout. Là, tu comprends, tu te dis, ah, c'est ça que je vivais à l'intérieur, c'est ça qui fait du sens. Je comprends maintenant et les morceaux du puzzle se mettent ensemble. Eh bien, le thème ce matin. J'espère va avoir un peu cet effet-là pour vous. En fait, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament à au moins 160 fois, sinon 180 fois, qu'on est en Jésus-Christ. Lorsqu'une personne a placé sa foi en Christ, eh bien, elle est une nouvelle créature et cet état-là, c'est d'être en lui. Et j'aimerais qu'on explique un peu ça. Aujourd'hui, et de voir qu'en fait, ça vient revisiter toute notre compréhension de ce que c'est le christianisme et qu'est-ce que c'est marcher au quotidien avec Jésus. C'est pourquoi aussi Paul, dans sa lettre aux Colossiens, va dire dans l'introduction au chapitre 1, Dieu a voulu vous faire connaître la glorieuse richesse du mystère de l'Évangile, c'est-à-dire Christ. En vous, l'espérance de la gloire. Il dit, en fait, c'est là que contenait tout le coffre à trésors de l'Évangile, c'est qu'en réalité, vous êtes unis à Jésus-Christ d'une manière bien particulière et qui a tellement d'impact. Alors, laissons-nous un peu à laisser notre imagination aller ce matin. À explorer cette vérité ensemble, que vous soyez nouveau, que vous soyez ancien, je crois qu'elle va vous apporter beaucoup de bénédictions. Vous savez, des fois, on cherche les choses concrètes qu'on peut toucher. Ce matin, on est beaucoup plus dans les choses moins concrètes, mais qui ont des implications, des ramifications très concrètes. Et c'est pourquoi Paul dit dans Corinthiens, regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles, elles, sont passagères, dit Paul. Les invisibles sont éternelles. Regardons ce qui est éternel ensemble. Un puritain, donc un pasteur au 17e siècle, disait Jonathan Owen, il disait « L'union avec Christ est la plus grande, la plus honorable et la plus glorieuse des grâces que nous partageons avec Christ. » Même un autre auteur de la même époque dit « La vraie religion, ce n'est pas simplement une saine doctrine et une piété exemplaire, mais c'est une communion avec une affection des réalités spirituelles que nous avons dans notre relation avec Dieu en Jésus-Christ. » J'aimerais donc vous parler un peu de l'adoption ce matin. Le premier point, c'est l'adoption comme moyen d'avoir obtenu l'union en Christ. Après ça, on va essayer de détailler qu'est-ce que c'est ça, l'union avec Jésus-Christ, et quels sont les bénéfices. Donc, un petit plan assez simple ce matin. Eh bien, imaginez qu'un jeune ouvrier dans un grand royaume dont il est un esclave en train de travailler sa terre, il sait très bien que l'empereur au-dessus de tout de ce royaume ne le connaît pas du tout. Il serait extrêmement privilégié de juste pouvoir un jour passer devant lui et lui serrer la main. Et s'il vivait juste ce moment-là, il en parlerait à ses enfants, ses petits-enfants, pendant des générations. Juste d'avoir été dans la même pièce que cet empereur. Imaginez que cet ouvrier, cet esclave, dans ce royaume, reçoit la demande de l'empereur de devenir son fils. Sa première réaction serait certainement presque, il serait presque troublé. Est-ce qu'on est en train d'essayer de me piéger? C'est tellement grand, c'est tellement inimaginable qu'il ne peut presque pas le recevoir comme une bonne nouvelle au début. C'est presque aussi pour lui une offense, parce que ça veut dire qu'il doit abandonner sa famille, son statut, peut-être même son nom, pour pouvoir être adopté et maintenant siéger et manger à la table de l'empereur avec le statut de fils. Statut que peu de gens ont dans ce royaume. En fait, la demande est d'abandonner son identité qu'il a présentement pour apprendre et obtenir une nouvelle identité avec un nouveau style de vie où tout est changé et où même les comportements sont changés. C'est de cette manière-là que Paul comprenait l'adoption quand il nous dit dans le Nouveau Testament qu'on a été adopté. On était esclave du péché. On était étranger au royaume de Dieu. On n'était pas digne d'être à la table du roi des rois. Et le Saint-Esprit a accompli l'œuvre de la rédemption dans nos cœurs, nous a rachetés et on a été adoptés, le Nouveau Testament dit. On est maintenant fils ou fille de Dieu. Extraordinaire! L'adoption au premier siècle n'était pas tant une question de donner des parents à un bébé, mais c'était de donner un nouveau statut, une nouvelle identité qui nous permettait maintenant d'avoir d'énormes privilèges. Des privilèges qu'on n'aurait jamais vus avant. Nous avons été adoptés. On a changé de statut. Tout a été transformé. On est dans une nouvelle éthique de vie. On est assis à la table du roi. Et même, on est co-héritier avec Christ. On reçoit l'héritage familial parce qu'on en fait partie. Et tout ça nous a été obtenu par l'œuvre et le travail de Jésus-Christ pour nous gratuitement. C'est merveilleux quand même, hein? On est adopté. J'aimerais qu'on se plonge un peu dans Galates 2:20 pour un peu nous faire comprendre tout ce qui a changé quand on a été adopté ainsi. Galates 2:20 nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le début de la phrase, premièrement. Ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Le moi ici, c'est le ego en grec. C'est l'être. Paul n'est plus ce qu'il était initialement parce que ce François-là, si je l'applique à moi, il a été crucifié. Il faut aller au cimetière pour le rencontrer, celui-là. Il est mort. Il a été crucifié. Même si ça s'est fait il y a 2000 ans, pour Dieu qui traverse les temps, qui est au-dessus du temps, c'est à ce moment-là que moi, j'ai été crucifié. Je suis décédé. Ma vie en Adam, la Bible parle aussi de qu'on est en Adam au départ, le premier représentant, qui lui nous a pas donné grand bénéfice. On a la vie, mais on a toute la conséquence du péché, d'être pécheur et du jugement associé à ce péché-là. On était en Adam, maintenant on est en lui, en Jésus-Christ. On a un nouveau représentant maintenant qui nous déverse sur nous tous ses bienfaits. Il n'y a que des avantages, une nouvelle identité, un nouveau nom, une nouvelle vie, une nouvelle création, un futur nouveau corps, une nouvelle vie au sein de son royaume dont il est le grand roi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus cet en Adam, ce François en Adam, c'est maintenant Christ qui vit en moi. Alors souvent on dit qu'on a été crucifié avec Jésus-Christ, mais on va voir, Christ vit en moi, on a aussi été ressuscité avec lui. On est dans la vraie vie. Parce qu'avant, c'était une vie limitée. Là, on a la vraie vie, c'est-à-dire Jésus est la vie qui nous disait « Je suis la vie ». Eh bien, on est ressuscité dans la vie. Christ habite en moi. C'est une vie qui a la caractéristique d'être éternelle, mais qui est déjà commencée. Je vis une nouvelle vie. Et je suis même assis avec lui, déjà dans les lieux célestes. Et je règne déjà avec Christ. Ça, c'est ce que l'union avec Christ nous dit. Le fait d'être ressuscité et que lui est ma vie, qu'il est en moi et je suis en lui. Tout l'ancien est complètement terminé. On a des fois de la difficulté à comprendre dans l'expression qu'on dit « c'est déjà là ». Mais pas encore parce qu'on n'est pas dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Mais on dirait qu'on croit plus le pas encore et on a plus de difficultés à croire le déjà. On se perçoit à tort encore comme si on était en Adam. Parce qu'il y a encore une trace de péché qui sort de nous. Ça nous confond, ça nous trompe, et ces résidus qui sont encore présents nous faussent la perception de ce qui est réellement arrivé, que la parole de Dieu confirme. Maintenant, le Saint-Esprit gouverne ma vie. C'est lui qui a opéré cette transformation. C'est plus que de dire « j'ai Jésus dans mon cœur », c'est de dire que toute mon identité, ma stature, mon positionnement a été renouvelé. Est-ce qu'on peut dire amen au moins à ça? Wow! Je suis plus un Turcotte. Je suis un fils du roi. Ce n'est pas que je ne pêche plus, comme je disais, mais croyons-nous cette vérité de l'Évangile que Paul va répéter et répéter. Et pourquoi il va le dire 170 fois? Parce qu'on est dur de compreneur. Et on a besoin de saisir qu'on est en lui. C'est pas rien. Si quelqu'un me demanderait, François, comment va ta relation avec Dieu? Ah, moi, elle est parfaite. Hein? Elle est parfaite? Mais oui. Le Père est parfait. Il est en relation avec Jésus qui est parfait. Et moi, je suis en lui. Voulez-vous quelque chose de plus parfait que ça? C'est extraordinaire! Et c'est ce que l'union avec Christ nous enseigne. Le péché commis aujourd'hui, cet après-midi, ne changera pas votre identité. C'est plus possible. Un enfant qui se rebelle à son père pendant un instant ne le fait pas qu'il n'est plus son enfant. Le père va encore être en relation avec lui comme d'un père avec son fils. C'est irréversible. Dieu ne se trompe pas. Il ne reviendra pas sur sa parole. La relation est déjà parfaite. Ce sont des versets extraordinaires et ils sont répétés. Mais l'apôtre Jean va le dire aussi dans ses propres mots. Lorsqu'il est dans la prière de Jean 17, Jésus prie son Père et il dit, « Papa, l'amour qu'on a ensemble depuis l'éternité va maintenant être disponible pour ceux et celles que j'ai rachetés. » L'amour du Père envers Jésus, un amour qu'on peut qualifier de parfait, d'extraordinaire, d'unique dans l'univers. Jésus dit qu'il nous a rachetés pour qu'on puisse y goûter déjà. Vous avez accès, le fait que Jésus est en vous, vous avez accès à l'amour du Père. Pas 10 % de l'amour du Père, pas 20 % parce qu'on serait d'une autre catégorie, 100 % de l'amour que le Fils a reçu. Jean 17 nous dit, nous aussi, nous y avons maintenant accès. Parce que ça ne dépend pas de qui moi je suis en Adam, ça dépend de qui je suis maintenant en Jésus-Christ, en lui. Et c'est une vérité. Et l'image que les auteurs du Nouveau Testament essaient de nous donner, c'est que, en fait, c'est presque le mariage. Le mariage, il y a deux personnes qui restent deux personnes, mais en étant mariés, ils font aussi une seule chair. Ils font une union, une unité. Et on veut comparer les deux. Et dans un sens, on a avec Dieu une relation maintenant soudée. Ce que le Saint-Esprit produit en nous, qui nous dépasse intellectuellement, mais qui nous rend un avec lui, et on est unis ensemble, et on va goûter à une relation, et tous les bénéfices que Christ possède nous sont transférés à nous. Et Éphésiens chapitre 1 commence en disant, « En lui, vous avez reçu toutes les bénédictions spirituel dans les lieux célestes. » Wow! C'est plus que Noël, ça. C'est Noël plus plus. C'est extraordinaire. Je suis déjà revêtu des habits du Christ. Ils sont un peu trop grands pour moi, mais je vais grandir à maturité et ils vont me faire de plus en plus comme un gant pour refléter l'image de Jésus-Christ. On est transformé en vue de cette image-là. Nous pouvons vivre une communion profonde. Et c'est ce pourquoi, en fait, tout a été fait. On a été déclaré juste, on a été sanctifié, on a été racheté, on est adopté pour avoir une communion en lui. C'était le but de tout ça. C'est ce que Jésus est venu faire pour qu'on goûte à cet amour. Parce qu'on est maintenant en lui, on n'est plus en Adam. Je suis en parfaite sécurité quand je suis chrétien. Si vous ne l'êtes pas encore ce matin, entendez les bénéfices ici. Je suis en complète sécurité. Je repose sur une transaction céleste qui a eu lieu entre le Père et le Fils, où il a dit, « Je vais les déclarer justes. » Et tout repose sur cette déclaration Tu es juste. Il n'y a plus de condamnation. Ta réputation est déjà faite. Tu es fils du roi. Rien ne peut l'ébranler. Tu n'as pas à la gagner. Tu n'as pas à performer pour atteindre quelque chose. Le Père a déjà dit, « Je prends plaisir en lui, Jésus-Christ, et il vit en moi. » Wow! Moi et Jésus, nous pouvons dire que lui est en moi et moi en lui. On est caché, la Bible dit dans Colossiens 3, on est caché, ma vie est cachée en lui. Le meilleur exemple pour ça, c'est un exemple qui nous vient du monde du football où un quart arrière, pour pouvoir lancer le ballon à ses joueurs, a des hommes là, géants devant lui qui bloquent l'ennemi là, pour que lui puisse lancer son ballon. Ça lui donne 3-4 secondes pour lancer le ballon. Bien pour dans les années 80, il y en a un qui s'appelait « The Refrigerator », le frigidaire. Il était dur à traverser, lui. Et le corps arrière qui a joué pour lui disait ceci, « Quand je courais derrière lui, j'étais complètement caché par sa force et sa puissance. Je courais librement. Tout ce qui devait me frapper le frappait lui. Il me frayait un chemin devant les forces hostiles. J'étais caché en lui. » Wow! C'est exactement ce qu'on vit en Jésus. On peut courir librement dans notre nouvelle identité et cette communion riche qu'on a avec Jésus. On est caché. Vous avez connu la mort, Paul dit dans Colossiens 3, à une ancienne identité, et votre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Une relation dans laquelle j'ai tous les privilèges. L'apôtre Pierre, comment le dit-il dans ses propres mots? Il dit ceci, que pour marcher dans ce monde et ne plus être, de rappeler qu'on n'est plus attiré par les choses qui étaient en Adam avant nous, il dit, vous êtes devenus participants de la nature divine. Hey, j'aurais eu peur de dire ces mots-là, moi. Mais Pierre le dit, vous êtes participants de la nature divine. Dieu est resté Dieu, il n'y a pas de mélange, c'est pas comme les religions orientales, mais il y a une réalité opérée par le Saint-Esprit, invisible à nos yeux, mais qui nous a rendus participants de la nature divine. C'est votre vie, comme croyant ici ce matin, c'est votre vie, c'est votre réalité, c'est votre identité. Vous n'êtes plus en Adam, vous êtes en Jésus-Christ. Et ce n'est pas juste une idée à comprendre, c'est toute une expérience à vivre. Jésus vous invite à marcher, comme Paul dit, je reviens à Galates 2:20, « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. » Ma vie présente, ma marche présente, elle est par la foi. Par la foi en quoi? En tout ce que je vous ai dit, dans tout ce qui est écrit ici. Paul marchait avec la foi de sa nouvelle identité, sa nouvelle réalité, l'Esprit-Saint qui gouverne sa vie, Christ qui est en communion avec lui, parfaite, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a racheté, qui m'a aimé pour que je puisse avoir cette nouvelle réalité-là. Vous savez, les moments forts quand on va à Walt Disney, il y en a qui sont déjà allés à Walt Disney ici? Quelques-uns? Moment fort quand on est là-bas, j'étais là avec mes enfants il y a une vingtaine d'années maintenant, et là, on rencontre les personnages, grandeur vivante de Disney. À l'époque, nous, c'était Monster Inc., un gros monstre bleu, là. Et là, les enfants, là, allaient faire un hug, ils étaient presque au complet dans le toutou, là, et ils étaient tellement contents. En fait, la personne à l'intérieur du costume reçoit toute la journée ses hugs d'amour. On ne sait pas ce qu'il y a de l'air. Il est caché. Mais quand les enfants le voient, ils le hug. Il reçoit toute l'affection et l'amour des enfants. C'est la même chose pour nous. On est caché en Jésus. Et le Père voit son Fils et là, on reçoit toutes les hugs de notre Papa parce qu'il nous aime, parce qu'on est en lui et on est parfaitement capable de recevoir un amour du Père illimité, rassurante, réchauffante et magnifique. Rien ne peut nous permettre de définir complètement cette vérité spirituelle, mais j'imagine une fontaine où l'eau coule continuellement. J'étais aux chutes Niagara, vous avez vu Yannick cette semaine au congrès, et là, à chaque fois, je suis impressionné. Ça fait comme 7-8 fois que je vois là dans ma vie, il y a encore de l'eau qui coule. À chaque fois, je suis comme, ça se peut pas. Je vais arriver à un moment donné, puis c'est sec. Non, ça coule à un flot et un débit de milliers de litres. Et ça, c'est notre réalité dans l'amour du Père qui se manifeste par cet exemple concret d'une chute aussi gigantesque que celle-là. Souvenez-vous, ce matin, quand vous l'aurez parti, je ne suis plus en Adam, mais je suis en lui. Dites-le à votre prochain, célébrez-le à l'heure du dîner, festoyez, vous avez le droit. Quels sont pour nous toutes les bénéfices? On ne peut pas tous les couvrir ce matin, mais j'aimerais en nommer quelques-uns. Vous savez, souvent, on pense qu'on doit, par nous-mêmes, arriver à accomplir les standards que la parole de Dieu nous présente. On est comme dans une forme de déficit, là. La Bible est ici, moi je suis là, puis là je vais manger ma croûte, puis je vais y arriver, tu sais. On va se retrousser les manches avec, on va demander à nos frères et sœurs de nous aider, puis on va y arriver à ce standard de sainteté ou cette forme d'obéissance radicale, tu sais, quand on entend des gens là, « Faut obéir, let's go! » Puis là, on est un peu coupable, puis là, on essaie de se donner pour rencontrer une espèce de norme qu'on sent qui est présente dans la parole. Mais cette norme-là, elle est là, bien sûr, partout dans les Écritures. Totale, radicale, elle a déjà été faite il y a 2000 ans sur Terre. Elle est déjà accomplie. Et la grâce parfaite qui couvre toutes ses fautes ne vient pas de nous non plus. Elle était aussi pleinement accomplie. Jésus a marché sur cette terre et pendant toutes ces années sur terre et sa mort sur la croix, tout ça additionné donne une obéissance et une grâce parfaite et nous avons le privilège d'avoir été greffés en lui. C'est tellement à propos de Jésus. C'est tellement à propos de ce que lui a fait. Et c'est sur cette base-là que je vais me tourner et je vais vivre ma marche chrétienne. Parce que si je n'ai pas ça en tête, la base de vouloir changer que l'Esprit met en nous, le désir de voir que je pourrais être meilleur, eh bien, le changement, s'il ne repose pas sur ma nouvelle identité d'être en lui, il repose souvent sur la culpabilité. On entend la différence de standard entre ma vie et celle des Écritures. On vit une certaine culpabilité, puis là, on veut se prendre en main pour essayer de faire face à ça, ou on s'assoit puis on dit, « Ah ben, c'est par la grâce, fait que je me laisse aller. » Toutes ces réactions, soit de performance ou de laisser aller, c'est parce que ça repose sur une espèce de tentative pour nous de remplir ce gap de différence entre ce que je sais qui est bon et là où je suis. Tout ça nous mène à l'échec. Tout ça nous mène dans un échec, Un homme écrivait son journal à tous les jours, il y a 400 ans de ça, et puis là, il dit, « Ah là, je fais la résolution ce matin de me lever à 5h30 et puis de passer du temps avec Dieu et de grandir là-dedans. » Et puis, il faisait plein de résolutions. Puis, on a l'opportunité, nous, de lire toutes ces entrées du journal. Et là, plus tard, il confesse parce qu'il ne s'est pas levé à 5h30. Puis, et là, il se résolut, mais là, à 6h le matin. Puis, à la fin de sa vie, sa résolution, c'est 7h30 le matin, tu sais. Il n'y arrive pas. Il n'est pas capable. Parce qu'il faisait tout reposer ça sur une autre base que celle de sa réalité spirituelle. On ne change pas dans notre marche chrétienne vers la sainteté, vers une vie meilleure, vers une obéissance radicale, sur la base de quelque chose qu'il faut combler. Non! On est déjà dans la plénitude. On part avec le réservoir plein. En fait, notre vie de tous les jours ne reflète pas encore 100% l'état dans lequel on est. Mais pour changer, Jésus va dire une parole complètement révolutionnaire dans Jean chapitre 15. On lit, et là c'est un contexte où il faut obéir au commandement, aimer notre prochain. Il dit, pour porter du fruit, il dit trois mots, demeurez en moi. Moi, si j'étais en forme, là, puis je serais athlétique, puis Dieu m'avait donné un corps athlétique, là, j'aurais le goût de faire le 100 mètres. Hein? Je regarde ça aux Olympiques, c'est incroyable. En 9 points quelques secondes. Là, tu es sur le point de départ. Là. 3, 2, 1. Pff, moi, je veux courir. Jésus, il dit, demeure. Hein? Comment je vais arriver au bout de la ligne si je ne cours pas? Demeure en moi. Et tu vas porter du fruit. Voyez-vous comment ça nous brise le cerveau? Demeurer, c'est même pas un verbe d'action. C'est un verbe intransitif, c'est un verbe, si on veut, un peu passif. Reste, demeure, demeure en moi. C'est-à-dire, prends conscience pleinement de ce que tu es en moi, par la foi. Contemple ces vérités et laisse-les macérer ton âme et ton cœur de ces hugs d'amour du Père. Et c'est cette grâce et cette bénédiction d'être en lui qui va complètement venir déposer par la puissance de l'Esprit des affections qui va faire que dans votre quotidien, ces nouvelles affections spirituelles des choses en haut vont être présentes par le fruit de l'œuvre et du travail du Saint-Esprit. La seule action que j'ai, si je le mets dans le mode de marcher, c'est de marcher par la foi, Paul dit dans Galates 2:20. Ma vie présente dans la chair, j'ai la vie par la foi. Et c'est donc se demeurer en lui, arrêter notre cerveau là, qui spinne dans la performance, la culpabilité ou le laisser aller, puis de reprendre par la foi, de saisir l'immensité que l'on règne présentement dans les lieux célestes. Déjà. Pas tantôt. Déjà. Et on est en communion parfaite avec le Christ sur la base de son œuvre à lui. Vous savez, l'autre application bénéfice, c'est que je m'en vais dans la prière, pas avec une attitude un peu piteuse. Ouais, mais là, tu vas me recevoir, moi, matin encore. Tu sais que je suis la plus galeuse du groupe, là. Je ne suis pas comme un tel. Non. J'arrive dans la prière. Je suis capable de confesser mes fautes au Seigneur. pour laquelle il a déjà payé le prix, il en est conscient, il a déjà payé le prix, et je suis déjà plus dans l'identité associée à ça, je suis dans la nouvelle identité. Unie à lui, je peux aller dans la prière, et là vous pouvez penser à tous les textes que vous connaissez dans Hébreux par exemple, « Approchez-vous du trône de la grâce ». On peut y aller. Vous avez un avocat auprès du Père. On peut aller là. On est accueilli 24 sur 24 comme un fils. Et on peut avoir cette communion riche et profonde de dire, j'ai accès à ton amour parfait encore ce matin. Et que ces vérités-là réchauffent nos cœurs, provoquent par la puissance de l'Esprit une affection de marcher de gloire en gloire. Parce que j'ai le goût de refléter mon roi. Il est tellement bon. Il est tellement extraordinaire. Vous savez, les fans finis, là, on entend parler des Swifties, là, les fans finis, là, ils arrivent au spectacle, là, ils n'arrivent pas piteux. Là. Ils sont dans la fête. Ils sont habillés pareil, ils connaissent les paroles par cœur, ils vont sept fois au même spectacle, ils payent des prix de fou pour être là. C'est pas par culpabilité qu'ils font ça. Ils sont en relation, qu'on pourrait dire, d'adoration. Nous, dans notre adoration de l'œuvre de Christ qu'on a parlé et défini ce matin, mes amis, on va avoir le goût de refléter ce roi-là quand on le découvre et qu'il a lui-même la responsabilité et la puissance d'opérer le changement que je suis incapable de faire quand j'essaie de le baser sur autre chose que de demeurer en lui. C'est pourquoi Paul peut dire dans 1 Corinthiens 1, verset 30, « Jésus est ma sanctification ». Cette phrase ne ferait pas de sens sans l'union à Christ si ça dépendait de moi qui devais, après avoir été sauvé gratuitement, revêtir mes gants de travail, puis d'aller boxer, puis travailler fort à être sanctifié. Non, je dois comprendre que Christ est ma sanctification. Le réformateur Jean Calvin parlait du salut comme une double grâce. On a reçu une pleine justification et une pleine sanctification. Et c'est dans l'adhésion à cette double grâce que les affections de mon cœur vont être transformées pour refléter de plus en plus l'image de mon roi Jésus-Christ. On n'a pas travaillé pour être adopté, on ne travaille pas pour être changé. Le changement est quelque chose que Dieu fait. Et quand la Bible, Nouveau Testament, nous parle de travailler à notre salut, je crois qu'elle ne parle pas ici d'efforts à commettre avec sueur, mais je parle plutôt de travailler à me rappeler, à demeurer, travailler à demeurer en lui. Et dans l'image du cep et des sarments que Jésus dit cette déclaration-là de demeurer en lui dans Jean 15, on ne voit pas des branches à terre qui courent puis qui sont en sueur. On voit des branches greffées au tronc qui ne bougent pas. Et ils sont chargés de fruits. Encore en allant aux pommes dernièrement, vous êtes allés peut-être, tu vois ces branches qui courbent sous le poids des fruits. Et la branche n'est pas en train de se dire « Ah, faut que je pousse, faut que je pousse la sève. » Non, ça, c'est organique. C'est Dieu qui fait l'œuvre. La même chose pour nous, c'est l'image qu'il nous donne. Le Saint-Esprit lui-même se charge de notre transformation. Restons la branche connectée. Quels sont les signes que je suis peut-être en performance? Et si vous péchez et vous dites, quelle sorte de chrétien que je suis? Là? Ça, c'est des phrases de performance. Ou vous avez lu votre Bible, vous avez évangélisé, vous vous sentez bien, vous n'avez pas fait ça, vous vous sentez mal. Vous êtes en mode performance. Si les activités de la vie chrétienne semblent être un devoir, vous êtes en mode performance. Je suis en mode performance. J'ai oublié de demeurer en lui. et que tout ça est l'œuvre de Dieu. Je termine en disant que si on fait l'image de la vie chrétienne comme un voilier au lieu d'un arbre et ses fruits, si on imagine un voilier, vous savez quoi? Il y a la grande voile du voilier. Ce qui fait avancer le voilier, ce n'est pas la voile elle-même, mais c'est le vent. Et nous, je crois qu'on travaille à notre sanctification en soufflant de nos poumons. Et on trouve ça dur. Mon ami, qu'on trouve ça dur. Ça bouge pas. Ça change pas. Et vous avez déjà été peut-être sur l'eau et là, le vent arrive, mon ami. Ça gonfle la voile. Le vent, c'est Dieu. On est juste une voile. On demeure attaché au mât. Et le vent de Dieu nous transforme. Il faut donc apprendre à demeurer en lui. Même 1 Jean chapitre 3 nous dit que si vous demeurez en lui, vous ne péchez pas. Parce que on est à l'image de Dieu. Et il y a tout un travail, oui, à méditer et à prendre conscience. Je me souviens d'un couple que je connaissais qui avait adopté un enfant d'un pays pauvre et puis l'enfant, à un moment donné, était à table, mangeait avec eux et sans s'en apercevoir, à un moment donné, ils arrivent dans son garde-robe puis il y avait une pile de restes de nourriture. Là, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils découvrent que l'enfant, à chaque repas, il s'en mettait dans les poches. Il remplissait ses poches et il vidait ses poches dans le garde-robe en prévision du jour où il en aurait pu. Parce que d'où il vient, il y a des journées qu'il y en a, puis des journées qu'il n'y en a pas. Et là, les parents pleuraient, puis ils ont essayé de le sécuriser pour lui dire, « Hey, ici, là, il va avoir de la nourriture à tous les jours. » Cet enfant-là devait apprendre à vivre dans l'amour de son nouveau père et d'adapter ses comportements à sa réalité dans le nouveau royaume dans lequel il avait été placé. À ceux qui sont ici en lui, à vous tous qui avez placé votre foi en Christ, 2 Corinthiens 3, 12-18, à force de contempler la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image. Un autre verbe, contempler, demeurer, revêtir. Chez Pierre, il dit, armez votre pensée, saignez, mettez dans votre tête les choses et vous serez transformés. Seul Dieu et le vent. Et nous pouvons apprendre à goûter à notre intimité avec notre bien-aimé Sauveur pour marcher avec lui de gloire en gloire et de cesser de regarder nos péchés pluriels et les laisser nous définir qui nous sommes. Parce que nous devons apprendre à saisir que nous ne sommes plus en Adam, mais on est maintenant en lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te prie pour cette assemblée. Je te prie premièrement pour tous ceux qui seraient nouveaux ici et qui n'avaient pas encore saisi la bonne nouvelle de Jésus. Je te prie qu'ils découvrent la puissance de la nouvelle identité que donne Jésus en croyant en lui et qu'il puisse le faire même de demander à quelqu'un autour d'eux, « Conduis-moi à Christ. » Et pour ceux qui le connaissent, Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs. Oh, vraiment! Qu'ils partent d'ici ce matin gonflés de leur véritable identité et que cela affecte leur démarche leur transformation. Seigneur, je te prie qu'ils puissent saisir de plus en plus l'amour du Père pour eux, qu'ils puissent de plus en plus s'asseoir en prière avec Christ dans les lieux célestes et de parler ensemble, un, unis, dans la gloire. Je te prie pour ces choses au nom de Jésus. Amen.